La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
9h moins quart, Esprit Libre avec Lucie Robquin des Échos et Christophe Barbier, éditorialiste, auteur, dramaturge, comédien. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. On va aller au Sud, mais avant cela, on va parler d'un problème qui était l'apanage des pays du Sud. Autrefois, c'était la dette, c'était les déficits, c'était la mauvaise gestion. Je me souviens dans mes manuels d'économie, dans les années 80, quand il était question de dette, on parlait des pays du Sud. Et aujourd'hui, nous sommes rattrapés par ce sujet. 5,5%, c'est le montant des déficits publics qui n'ont rien à voir avec la dette, mais un peu avec les intérêts financiers de la dette, un peu avec le train de vie de l'État. 5,5%, c'est un chiffre, on s'y attendait, mais jamais ce chiffre n'a provoqué autant d'angoisse et d'impatience ces dernières années.
C'est un choc, hein. On ne s'y attendait pas vraiment. Il serait d'ailleurs bon que ce soit un électrochoc pour ceux qui nous gouvernent. C'est 15 milliards de déficit de plus que ce qui était prévu, hein. Nous ne contrôlons plus du tout notre trajectoire budgétaire. Nous nous sommes mis dans les mains de nos créanciers. Et à vrai dire, les gouvernants et tous les partis politiques s'en fichent. Nous n'avons jamais présenté de budget à l'équilibre depuis 1974. Et alors, pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous savez ce que fait le ministre de la fonction publique aujourd'hui. Eh bien, il présente une lettre de cadrage pour tester la semaine de 4 jours chez les fonctionnaires. On voit donc bien où sont les préoccupations du moment.
Christophe Barbier, quand Lucie Robquin explique qu'on contrôlait rien, est-ce qu'on paye aujourd'hui pas le laisser aller, mais un choix budgétaire qui a été fait pendant les années Covid?
On paye deux choses, oui, on paye cet emballement, le quoi qu'il en coûte, qui a fini par déboucher sur une économie qui, malgré son rebond, n'a pas réussi à recréer de la vertu. On paye aussi autre chose, hein, c'est que la théorie d'Emmanuel Macron de laisser le maximum de volants financiers aux entreprises en contenant les impôts et en les diminuant, aux particuliers aussi, notamment les particuliers plus aisés, ça a fonctionné. On a créé des emplois, on a attiré des investisseurs, on a redynamisé l'économie, puis ça s'est essoufflé. Donc c'est un second souffle du macronisme qu'on est en train un peu de chercher. Et là, on aboutit à l'angle mort du macronisme depuis 2017, c'est l'absence de réforme de l'État. Il était dans la course à la présidentielle très mieux disant. Alors c'était pas les 500 000 fonctionnaires en moins de François Fillon, mais il voulait en faire 200 000. Puis c'est devenu 120, puis 90 après les Gilets jaunes, et puis zéro après la Covid. Et l'an dernier, en 2023, on a embaucher 59 000 fonctionnaires de plus que l'année d'avant. Donc, elles sont là, les dépenses excessives. Bien sûr, il y a la protection sociale, il y a des abus, il faut serrer la vis, mais la protection sociale correspond souvent à des besoins nécessaires. La fin de vie, le grand âge, les dépenses de maladie. C'est très difficile de dire aux gens, vous serez moins soignés, moins accompagnés, ou bien on va désindexer votre retraite de l'inflation, donc si l'inflation flambe, vous vous appauvrirez, c'est pas simple. En revanche, regardez l'État de près et voir où il y a besoin de fonctionnaires, et là où on en a pas du tout besoin, plus du tout besoin. Obliger un choc technologique avec l'IA qui arrive et qui doit nous permettre de faire des économies, ça, c'est un impératif. Ça sera l'enjeu de 2027, mais avant, qu'est-ce qui va se passer là? Il n'y aura pas de loi de finances rectificative, nous dit Macron. Donc on va avoir un budget 2025 qui va être terrible à faire. Eh bien, les oppositions vont le refuser, ce budget, à l'automne. Il n'y a pas de majorité, il y aura donc un 49-3. Et après ce 49-3, il y aura des motions de censure. Est-on certain qu'il n'y aura pas une des motions de censure, par exemple du groupe Liotte, le fameux groupe un peu central, qui fera la majorité? Auquel cas, le gouvernement sera renversé sur son budget 2025. Dissolution, élection, vous voyez dans quel scénario catastrophe on se dirige.
Et comme d'habitude, on va vouloir parler hausse d'impôts plutôt que baisse des dépenses. C'est la seule réponse que nous savons apporter au déficit. Donc voilà, on va parler de la surtaxation des profits, du crédit impôt recherche, de ce genre de choses qui jusqu'alors étaient tabous et qui risquent de revenir au Parlement.
Et est-ce qu'on peut mobiliser l'épargne des Français, la confisquer ? Obliger les Français à prêter à l'État l'argent qu'il ne trouvera peut-être plus sur les marchés financiers si les notes sont dégradées ?
Sachant que 3 agences de notation doivent noter la France dans les 3 mois qui viennent, juste avant les européennes, l'effet risque d'être assez catastrophique.
Et puis, toucher à l'épargne des Français, ça risque d'être politiquement explosif. Alors, on va au Sud aujourd'hui. On va d'abord faire étape au Sénégal. Quel retournement de situation au Sénégal? Il y a quelques semaines, on imaginait un coup d'État. Les oppositions quittaient le Parlement quasiment menottes aux mains, escortées par la police. Et puis, quelques semaines années plus tard, un président tout jeune, inspecteur des impôts, comme ça on reste dans l'ambiance fiscale, élu, espoir d'une génération, puisqu'il n'a que 44 ans. Votre analyse, Lucie Robquin, de ce qui se passe au Sénégal.
Bah, histoire assez incroyable, hein, que celle de ce jeune homme qui était encore en prison il y a une quinzaine de jours, hein, que personne ne connaissait. Il a fait campagne jour et nuit depuis. Ça fait donc souffler un certain vent de jeunesse sur le Sénégal, mais ce n'est certainement pas une bonne nouvelle pour la France. Il parle de souveraineté économique, il veut renégocier tous les contrats gaziers, miniers, pétroliers avec les entreprises occidentales, notamment les françaises. Hein, Total a une forte présence au Sénégal. Et par ailleurs, il veut sonner la fin du franc CFA, qui est un instrument de soft power pour la France. C'est une monnaie qui aujourd'hui est indexée à l'euro. Et voilà, on risque de voir émerger en Afrique de l'Ouest une monnaie qui sera annexée au dollar, au yuan, à la livre sterling. C'est donc une perte d'influence pour la France, une de plus dans cette région où nous avons perdu tout notre poids récemment.
Christophe Barbier, le réflexe anticolonial, anti-France, entre guillemets, la sortie du franc CFA, c'est l'affirmation chez un socialiste, puisqu'il est socialiste, revendiqué socialiste, aussi de l'utilisation de la fibre nationale. Donc on se retrouve dans un scénario traditionnel, c'est la faute à l'ancien colonial.
Oui, moi je veux quand même mettre deux notes positives. D'abord, cette tendance anti-française, ces slogans anti-français ont diminué vers la fin de la campagne. Donc voyant le pouvoir arriver, il s'est dit, bon, on va quand même pas complètement se fâcher la France, on va renégocier, mais on ne va pas rompre. Il a dit par ailleurs qu'il voulait reprendre le dialogue avec les juntes militaires qui se sont installées dans différents pays et qui, elles, ont violemment rompu avec la France au profit notamment de la Russie. Donc peut-être est-il l'espoir d'une médiation pour restabiliser cette région. Il est musulman, mais modéré. Ça va jouer aussi un rôle dans ses premiers pas. Et puis l'autre point positif quand même, c'est que la transition démocratique a fonctionné. Une élection qui a été reportée, qui voulait être ajournée, non a dit la rue, non a dit l'instance constitutionnelle, des opposants en prison, parce qu'il est lui le vainqueur, mais il y a aussi Sonko, qui est le vrai leader de l'opposition, qui lui a fait de la prison, a été éliminé de la présidentielle pour ses condamnations. Ben, malgré cette ambiance un peu dictature, la transition démocratique a fonctionné. Et là, 48 heures après le vote, il n'y a pas d'émeute, il n'y a pas de coup d'État de ceux qui ne veulent pas lâcher le pouvoir. Le candidat du pouvoir a reconnu la défaite. Peut-être qu'on va vers quelque chose qui est l'embryon d'une stabilité et du règne de la raison. Alors là, on sera vraiment sorti de la période post-colonial contestataire pour être plus constructive, mais je sais que je suis là peut-être trop optimiste.
Sénégal resterait donc le Sénégal.
Je partage en partie l'optimisme de Christophe, parce que figurez-vous que j'étais au Niger il y a quelques mois, c'était la catastrophe évidemment, coup d'État, Orano stop l'exploitation l'extraction d'uranium, et finalement, quelques mois plus tard, l'entreprise a repris, l'extraction a repris, on sent que les gouvernements ont besoin encore des entreprises occidentales, et que derrière les propos de campagne, il y a aussi une forme de rationalité des gouvernants qui savent l'intérêt qu'ils trouvent à coopérer avec nous.
Et cet adage selon lequel le pire n'est jamais sûr. Emmanuel Macron au Brésil, après une visite en Guyane. Quels sont les enjeux, Lucie Robquin, selon vous, de cette visite dans un Brésil post-Jair Bolsonaro?
Alors Macron plaçait beaucoup d'espoir dans Lula. Ils espéraient avoir une sorte de ce qu'on appelle une bromance. Le hasard fait que d'ailleurs dans les grands sommets internationaux, ils sont toujours à côté parce que le L de Lula est à côté du M de Macron. Donc sur les photos, ils se touchent le bras, ils se sourient. Macron espérait vraiment tourner la page de Bolsonaro. Ce n'est pas vraiment le cas. Il y a beaucoup de divergences qui ont émergé depuis. D'abord sur le plan géopolitique. Lula n'a pas voulu prendre parti pour l'Ukraine. Elle refuse de lui livrer des armes. C'est son anti-américanisme qui prime. Et surtout sur Israël, où Lula a dit que ce qui se passait à Gaza était équivalent au génocide que Hitler avait infligé aux Juifs. On est donc sur des positions extrêmement différentes.
Lula a même invité Poutine par erreur au Brésil. Il a dit, bah, s'il vient au Brésil, il a dû être corrigé derrière pour dire, bah, non, il pourra pas. Si Poutine vient au Brésil, on devra appliquer la loi et l'arrêter. Donc,
beaucoup de divergences là-dessus. Une grosse divergence commerciale autour de l'accord de libre-échange Mercosur que la France ne veut pas valider à l'inverse de la plupart des pays européens. On va donc parler du seul domaine dans lequel ils ont des points d'intérêt communs, qui sont les sujets transition écologique. Lula a beaucoup fait sur la déforestation, enfin pour stopper la déforestation de l'Amazonie. Et Macron va essayer d'édifier un agenda commun avec le Brésil. C'est là-dessus que va se jouer la visite des trois prochains jours.
Christophe, Emmanuel Macron, il va voir aussi l'un des piliers de ce qu'on appelle les BRICS, qui sont plutôt en phase avec la Russie et la Chine, plutôt qu'en phase avec ce qu'on appelle l'Occident, que peut Emmanuel Macron, au-delà des papouilles et de la bromance.
Essayer de prendre un combat d'avance. Les BRICS, c'est le noyau dur, déjà un peu obsolète, d'un nouveau phénomène qui s'approche et dont l'Occident doit être, sur lequel l'Occident doit être particulièrement vigilant. C'est ce qu'on appelle le Sud global. Nous ne pouvons pas laisser des pays comme le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, essayer de constituer comme cela une alliance qui est une alliance anti-occidentale où ces pays sur lesquels on a fondé beaucoup d'espoir et qui pour certains ont dérivé. On l'a vu avec le Brésil à l'instant dans les mots de Lucie, on le voit avec l'Afrique du Sud. Eh bien, on ne peut pas laisser ces pays aller vers un bloc qui serait une sorte de nouvel axe du mal parce qu'ils y seraient complètement dominés rapidement par la Russie, par la Chine et peut-être par l'Iran. Donc nous devons, nous, Occident, être très fermes et très vigilants vis-à-vis de ceux qui, dans ce Sud global, devraient être nos alliés et qui, sur toute une série de dossiers, ne le sont plus. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron doit faire preuve de fermeté vis-à-vis de Lula. On est loin, en effet, de la bromance, mais aussi de vision. Essayer de montrer ce que pourrait être un monde dont on voit que le multipolaire l'a amené au bord d'une forme de conflit généralisé et qui doit revenir vers un monde bipolaire qui n'est plus ouest-est qui est nord-sud, mais un nord-sud qui serait discuté, dialogué, co-construit.
Lucie Robquin, quand l'Occident autrefois, et je reviens à mes livres d'économie, s'adressait aux pays du Sud, l'Occident s'adressait fort de ses convictions mondialistes, fort d'échanges et d'une mondialisation qui fonctionnait, fort de sa richesse, de ses prêts, de sa capacité à annuler des dettes, on revient à la dette. Aujourd'hui, l'Occident arrive un peu appauvri, avec un manque de moyens, avec une capacité d'action sur les affaires du monde et sur le business qui est bien réduite par rapport à la Chine et peut-être même par rapport à la Russie, la capacité de séduction de l'Occident est moindre.
Bien sûr, elle est amoindrie. D'ailleurs, elle est confortée par cette idée des pays du Sud qu'il y a une sorte de deux poids, deux mesures de la part de l'Occident. On ne traite pas de la même manière tel ou tel pays selon nos intérêts économiques. On le voit notamment sur les accords de libre-échange aujourd'hui. Donc, nous avons perdu de l'influence, c'est certain. Après, il ne faut pas fantasmer ces BRICS, hein, qui aujourd'hui s'étendent à une dizaine de pays supplémentaires. Au-delà de leur défiance pour l'Occident, il n'y a pas grand-chose qui les rapproche. L'Inde et la Chine ont d'énormes sujets de divergence. Voilà, ce n'est pas une entité homogène.
Merci à tous les deux, Lucie Robquin, Christophe Barbier. Nous allons nous séparer avec la sonate de Beethoven intitulée « La chasse ». Alors pourquoi Beethoven aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'il est mort un 26 mars 1827 à Vienne. Clin d'œil à Hervé Gattegnaud, « La chasse », le dernier mouvement de cette sonate, est tout à fait enjoué, tout à fait joyeux et vous mettra très certainement de bonne humeur sur Radio Classique. À la semaine prochaine.